Hello, this is Paul Smith. Please listen to Pop, 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 and let's go.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a plein de moyens de se consoler de la double calamité de ce qui nous attend demain, vendredi 22 juin. Oui, non seulement c'est la fête de la musique, autrement dit la farandole à chaque coin de rue, des flûtes de pan, des chanteurs anémiés et des groupes de rock alternatif au rock alternatif, mais en plus, Philippe Sdard, la moitié d'Orange du groupe Cassius, qui devait se produire ce soir à l'Olympia, est mort des suites d'un accident stupide comme ils le sont souvent, laissant une famille dévastée, un partenaire de jeu KO debout et toute la planète électro en état de choc, d'électrochoc pourrait-on dire. Se consoler donc, mais comment? Certes, il y a les boules qui est, c'est la boisson, mais Pop, Pop, Pop se doit de proposer à ses fidèles des alternatives pop et originales, comme tiens par exemple attendre impatiemment vendredi prochain, le 28, non pas parce que ce sera le dernier Pop, Pop, Pop de la saison, mais parce que débutera sur Netflix la diffusion d'une série les plus poilantes qu'il m'ait été donné de voir depuis longtemps, Family Business, featuring notamment Jonathan Cohen et Gérard Darmon, nos deux invités.
France Inter. Pop, Pop, Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Jonathan, bonjour Gérard.
Mais bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous deux, j'ai envie de dire.
Ben oui, merci. Parce qu'on est deux, effectivement, c'est bien joué.
Vous êtes deux. À mes côtés, celle qui a revêtu sa salopette des grands jours, et ce qui signifie, messieurs, qu'elle ne va pas hésiter à mettre les mains dans le moteur, Charline Roux.
S'il y a problème de carbu, il n'y a pas de souci.
Bonjour.
Bonjour.
Elle est là, on va régler ça tout de suite. Et rebonjour donc Jonathan et Gérard. Je vous rappelle que ce studio n'est pas fumeur, et ça vaut aussi pour la moquette. Préliminaire c'est mystérieux, mais qui va s'expliquer.
Oui, mais les gens vont comprendre au fur et à mesure.
Ils vont comprendre ça très très vite. Pardon, Jonathan, mais quand je vous entends parler à côté de Gérard, comme ça vient d'être le cas, vous êtes bien conscient que vous partez avec un handicap avec votre voix d'adolescent chétif.
Je sais, je sais. Et il a fallu véritablement un gros travail de son pour réguler les basses. Ce qui fait qu'il y a pas, on voit pas trop la différence. Mais j'avoue qu'on a un très bel organe à ma droite.
On parle de vous.
Oui, j'entends bien.
Donc on part sur une base d'émission chargée en testostérone et on voit un peu comme ça.
Vous occupez du moteur, Charles.
Eh ben, très bien.
Alors messieurs, vous savez qu'ici, quotidiennement, il y a une question que je pose avec une voix encore plus grave que celle de Gérard. Et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses d'harmonisées, gérardisantes, jonathanesques et même cohenisées. Et parmi mes préférées, il y a celle de Dominique Farrugia.
Pour moi, c'est la culture à côté de la culture. C'est la culture plus notre culture qui fait une culture qui devient la pop culture.
C'est une bonne définition.
C'est une très bonne définition. J'aurais voulu la sortir, mais du j'avais coup, pas les fait, outils, certainement.
Il va falloir trouver autre chose maintenant.
Ouais, et puis surtout que j'en ai sorti une, je sais plus ce que j'avais sorti moi.
Moi non plus. Mais justement, nous sommes frais tous les deux.
D'accord. Écoute, on va repartir à zéro. On va mettre.
On va laisser Gérard,
Gérard
faire une autre proposition.
Non plus. Je suis assez d'accord avec Farrugia. Je dirais que si littéralement je regarde, c'est donc la culture populaire, on est bien d'accord. Hein, tout ce qui concerne... Alors, où est la frontière? Je ne sais pas. Si le fait de prendre une bouteille de soda, de la mettre sur la tête et de prendre une photo comme ça en contre-jour et de l'exposer place de la Concorde sur 3-4 mètres sur 8, est-ce que c'est du pop art? Est-ce que c'est de l'art populaire? Certains diront oui, d'autres non, pratiquement. Ouais. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement définir l'art populaire. Ce que je dise, c'est trop tôt dans la journée pour ça.
C'est une réflexion à suivre. Et vous, Jonathan,
je suis assez d'accord avec Gérard, qui est d'accord avec Dominique, qui était d'accord certainement
avec Alain.
Un pompier. Avec Alain. moi, j'aime l'art de la rue.
Ouais.
J'aime l'art du peuple. J'aime ce qui est à ma portée, parce que c'est une fenêtre
ouvert sur le monde.
C'est une fenêtre ouverte sur le monde.
Et... on sent le mec qui ne sait pas comment il va finir sa phrase.
Pas du tout. Et... il va sur ses pieds, je le connais par cœur.
C'est une fenêtre sur le monde. Et pour moi, la beauté, elle est dans le réel, elle est dans le concret, elle est autour de nous à chaque instant. C'est pour ça que je l'aime, cette pop culture.
Donc elle est là aussi dans le studio.
Elle est en face de moi. Mmh. Et vous avez vu, je vous regarde.
Charlie. Elle, moi, la pop culture est en face de moi parce que Jonathan Cohen, si vous vous connectez sur franceinter.fr, vous pourrez voir qu'il a la chemise et la moustache de Magnum.
Exactement. Et ça, c'est de la vraie pop culture, les amis.
Bien. Alors, je le disais.
En même temps, d'emblée, on est confronté à une espèce d'inculture justement et d'incapacité de définir une chose qui devrait être très simple. Qu'est-ce que la pop culture, quoi.
Oui, c'est à la fois très simple et très complexe. C'est ce qui fait heureusement la richesse de cette émission.
Bah, voilà, on piétine et je suis pas du tout content de moi.
Ben, vous reviendrez une troisième fois. Déjà. Très bien. Je le disais en intro de cette émission, la planète pop vient de perdre avec Philippe Sdard, l'un des pionniers de la French Touch. Alors, dans une émission de pop culture, impossible de ne pas jouer comme premier morceau un morceau de Cassius et c'est Action. It takes two, point of view, got no clue, maybe let's pretend. Where you going, what you showing, cash you blowing, face still glowing, ticking, talking, we can rock it, fish this stocking, electric shocking. C'est un morceau signé Cassius, dont le nouvel album sortira demain. Et ce morceau featuring Cat Power et Magdi des Beastie Boys. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec David et Jonathan, mais avec Gérard et Jonathan. Qui est ce nouveau couple de la pop culture? Signeront-ils le nouveau tube de l'été? Réponse avec leur pop portrait. Oui. Alors, pop portrait, bien sûr, c'est votre portrait, mais... À base de pop, 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 pop. Et il est toujours signé Charline.
Aujourd'hui, deux invités qui avaient tout pour se rencontrer. J'ai fait une étude de parcours comparé, c'est absolument flagrant. L'un a été Serge le mytho, un mec qui a fait atterrir un avion et qui a inventé une drogue. L'autre, Serge, un autre genre de mytho, l'ex-leader chanteur des aborigènes dans le film Le Beauf. L'un est Patrick Bialès, commissaire, l'autre est colonel dans la Lazy Company. L'un a été l'antillais de Diva pour Benex, l'autre le chinois de la série Templeton. Va falloir m'expliquer un moment, j'ai pas le lien. L'un a joué un homme de main dans Rabbi Jacob, l'autre a carrément été un rabbin, donc coexisté. Catégorie super-héros et légende, l'un est à mon bon fils dans Astérix et le shérif de Nottingham dans Robin des Bois. L'autre est Kebab Master dans 16 ans ou presque et Julien dans Hérocorp. L'un est la voix de Maltazar dans Arthur et les Minimoys, l'autre est celle de Brad Pitt dans Burn After Reading.
Oui, absolument.
Oui, absolument. Coïncidence, je ne crois pas. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont aujourd'hui dans Family Business, Joseph le fiston et Gérard le papa.
Ok, donc j'ai bien compris, vous ne pouviez pas ne pas vous rencontrer.
Je pense que non, en fait, c'était, on était obligés en fait, de se croiser à un moment donné. Moi, je suis obligé de dire à quel point c'est un honneur pour moi, et ce n'est pas de la flagornerie, hein, il le sait, tous les jours je lui dis, la chance qu'on a eu tous de pouvoir tourner avec Gérard. Mais je parle de toute l'équipe parce qu'on est quand même une petite bande de genoux. Igor Gottesman, Mohamed,
le réalisateur,
Olivier Rosenberg, un des acteurs et un des auteurs, et Ali Maria. On est tous fans absolus de Gérard. Et pour coup, quand il a accepté de faire la série, on pouvait pas rêver mieux. Elle a été écrite pour lui de toute façon. Et voilà.
C'est peut-être embarrassant pour lui.
C'est embarrassant pour toi.
Cette avalanche de compliments.
Un petit peu.
Oui.
Un petit peu.
En même temps, ça vient de la bouche de Brad Pitt.
Ça vient du cœur, surtout.
Tu peux me répondre en anglais si tu veux.
Non, je peux le français.
Ok. Qu'est-ce qu'il va dire après ça?
Je suis content.
So excited.
Et très content.
Alors,
bien. Gérard, Jonathan, je baisse la lumière de ce studio pour vous poser des questions indiscrètes.
Du coup, je peux enlever mon flûte?
Oui, allez-y. Okay. Allez-y, c'est le moment. Oui.
C'est
l'heure de votre pop-list, une pop-list croisée donc. Vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. On va commencer avec vous, Jonathan. Et pour ce livre, vous avez choisi L'Homme D. C'est écrit par Luc Reinhardt en 1971. Charline. Charline, mais ce titre me dit quelque chose. De quoi s'agit-il au juste? Rafraîchissez ma mémoire, s'il vous plaît.
Luc Reinhardt, un psychiatre réputé, décide un jour d'interroger l'aidé pour décider de toutes ses actions. Et le saviez-vous, c'est aussi le livre culte de Josh Brolin, alias Thanos des Avengers.
Comme par hasard.
Comme de par hasard.
Il n'y a pas de hasard, Jonathan. Pourriez-vous nous en lire un court extrait, s'il vous plaît?
Bien sûr. Mes collègues et moi-même affirmions, en marmonnant timidement autour de nos divans, que mon problème était absolument normal. Je me haïssais et je haïssais le monde parce que je n'avais pas réussi à affronter et à accepter les limitations de mon moi et celles de la vie. En littérature, ce refus s'appelle le romantisme, en psychologie, névrose.
C'est le livre dont nous a parlé Josh Brolin, L'Homme D. C'est celui dont vous nous parlez aujourd'hui. Ce livre qui plaît tellement aux acteurs?
Il est dément dans le sens où, en fait, un gars qui se sent un peu enfermé dans sa propre vie de psychologue, il a l'impression, en fait, que son travail ne sert à rien et que c'est un grand enfumage. Et du coup, un jour, comme ça, il a des dés à côté de lui et il dit, tiens, si je fais un 2, je vais aller chez ma voisine et je vais aller la violer. Alors, je déconseille à tout le monde de le faire. Mais en tout cas, ça lance le process d'un nouveau style de vie où, en fait, il peut accepter et accéder surtout à toutes ces facettes de personnalité inutilisées parce que jamais mis dans des contextes et enfermé dans des carcans.
Ce qui explique pourquoi ça vous plaît à vous, acteur aussi, non?
Mais même au-delà d'acteur, surtout, je me dis, ce qui est assez fou, c'est qu'on n'accepte pas, mais c'est la société qui veut ça aussi, qu'on n'accepte pas nos paradoxes. On n'accepte pas les différentes facettes de nous-mêmes et on se rassure à n'être qu'une seule chose, une espèce d'entièreté comme ça qui rassure le monde et qui nous rassure nous-mêmes, sauf que ça crée des névroses immenses parce qu'au final, il y a des frustrations, il y a des... Alors, il faut oublier l'histoire de viol, mais c'est surtout accéder à d'autres choses de nous comme un aventurier. Et c'est ça qui me fascine dans ce livre. Et du coup, ça me désarçonne parce que je me dis, mais est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que je vis la vie comme je devrais la vivre véritablement? Et c'est ça que ça pose comme question.
Est-ce que ça donne envie à Gérard Darmon de le lire?
Oui, ça donne envie, mais c'est un procédé que je connais bien. Quand je faisais beaucoup de sport comme ça, je m'étais en me disant si... J'en peux plus là, mais il faut encore que je cours 2 kilomètres. Et si je cours pas ces 2 kilomètres, 1, je ne peux plus jamais tourner de ma vie, et 2, je vais perdre une jambe.
Ouais, voilà. Je pense que
c'est la pensée magique, ça.
Voilà, mais c'est comme ça. Et donc, ça te parle.
Ouais.
Ça t'aide à te dépasser. C'est de voir telle personne que tu aimes qui va mourir ou n'importe quoi. Ouais, mais enfin, un challenge comme ça.
Jonathan, vous partagez d'autres points communs avec Josh Brolin?
Oui, le physique. écoute, ouais, je fais 5 fois du sport par semaine. Et puis,
vous avez joué dans les Goonies aussi?
J'ai joué aussi dans les Goonies et dans le dernier Avenger.
Ouais.
Très bien.
Donc, ça nous rapproche.
Eh bien, CD, je les garde et je m'en sers pour savoir sur quoi nous enchaînons. Ah, ben le film. Gérard Darmon, pour le film, c'est vous qui avez choisi Opening Night de John Cassavetes.
Oui.
Charline, j'ai bien l'histoire en tête, étant donné que je suis allé voir la pièce du même nom avec Isabelle Adjani, il y a quelques semaines.
Formidable pièce ou pas?
Ah ben, incroyable.
Incroyable.
Incroyable, non. Incroyable. Je peux en parler pendant une heure, si vous voulez.
Mais je suis très chaud, mais
je vous en parlerai après.
C'est drôle, alors, que j'ai choisi ça.
Oui.
Que ça résonne comme ça.
Donc, j'ai bien l'intrigue en tête, parce qu'en fait, la pièce est basée sur le scénario original.
Oui.
Mais dites-leur à ces malheureux de quoi il s'agit, s'il vous plaît, Charline.
Oui. Myrtle Gordon est une célèbre actrice de théâtre, et après une répétition, elle assiste à la mort d'une admiratrice hystérique, renversée par une voiture alors qu'elle regardait son idole s'en aller. Un accident qui ne sera pas sans conséquence sur la psyché de Myrtle, et si on ajoute à ça que la pièce qu'elle doit interpréter fait aussi écho à sa propre existence, soit celle d'une femme qui a perdu sa jeunesse, la coupe est pleine.
They want to be loved. They have to be loved. The whole world. Everybody wants to be loved.
Et vous, Gérard Darmon?
Qu'est-ce qu'il est fort.
Comment s'ouvrent vos nuits?
Non, pourquoi vous aimez tellement Opening Night?
J'aime Opening Night au-delà de l'intrigue et de ce qui a été dit, c'est dans ce qui n'est pas écrit, et donc dans ce non-dit, dans cette façon exceptionnelle qu'avait de capter ça, des choses qui étaient pas dites, ces silences, ces détours de regard, ces gestes de cheveux comme ça, c'est la façon extraordinaire qu'il a eu là de filmer Jenna Rollins, cet amour. Et puis, c'était énorme d'intelligence, assez cruel. Ben Gazzara, Lucas Savetes qui joue aussi, qui est magnifique. Et puis cette espèce, vous l'avez dit, cette jeunesse qui s'en va qu'elle n'arrive pas. Pour réparer des ans, l'irréparable outrage, comme dit l'autre, c'est une plaie ouverte et elle sent, voilà, c'est une espèce de gouffre comme ça, de abyssal, cette perdition de cette mort de cette fan, ce grotesque de la vie qui l'a fait avoir un succès fou, un triomphe, une star, la mort à côté, le mauvais temps, le peine de cœur, la boisson,
disons-le, c'est un film sublime.
Ah voilà. Moi c'est un film sublime, mais voilà. De toute façon j'aurais pu mettre tous les films de Cassavetes,
influence.
Voilà, ça c'est clair. Mais c'est toujours compliqué de donner un film.
Oui, il faut faire des choix.
On est cruel.
L'histoire de la vie. Oui. Bon, Gérard, puisque je vous tiens, je vous garde. Pour la série, vous avez choisi Gomorrah,
oui.
Une série créée par Roberto Saviano. Charline, on parle de mafia avec Gérard Darmon. Existe-t-il un grand pardon pour les affranchis?
Non. Non, non.
C'est tout.
La famille Savastano est dirigée par Don Pietro. Son clan domine la mafia napolitaine. Mais un autre clan de la Camorra essaie de lui faire les poches et il est confronté à une nouvelle génération de jeunes cons qui ne respectent pas les codes. Alors Don Pietro doit penser à préparer sa succession.
Pietro Savastano a vieilli. Salvatore Conte le sait.
Mon fils a les épaules. Maintenant, je peux mourir.
Tant qu'on est ensemble, toi et moi.
Vas-y, Johnny.
Personne n'arrivera à nous battre. J'ai un truc important à te confier.
Je ferai n'importe quoi pour vous, Chiron.
Gomorrah dans sa version
française, c'est plus dur.
Oui,
c'est sûr, docteur.
Pas vrai. Tu vas absolument tuer ces salauds de Napolitains.
Pour sûr que c'est vrai. Oui, c'est sûr.
Pardon? Tu te fous de moi?
Ce docteur qui était toujours avec John Wayne dans les films. Pour sûr que c'est vrai. Oui, c'est sûr. Ronchant toujours.
Qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants de cœur napolitains, pour vous séduire?
Non, mais là aussi, on aurait pu parler de tout, des Sopranos, de toute la série.
Oui, mais il faut faire des choix.
De Easy, cette je conseille Easy, qui est une série absolument fantastique. Elle est là, celle de Michael Douglas.
Oui, non, mais là, on est sur Gomorrah.
Oui, bah, Gomorrah. Sur Gomorrah. Ben, je trouve que c'est... il me fait totalement oublier l'appareil, la caméra. Mm-hmm. Je trouve que les choix de tout, des acteurs, des tronches, des lieux, des décors, on y est.
Ouais.
Et il n'y a pas de... C'est pas enflé, c'est pas...
Et en même temps, c'est totalement shakespearien. C'est-à-dire que c'est en même temps très... Tu vois, c'est que des trucs de vie ou de mort, des fratricides,
tu m'as interrompu pour dire ça.
Oui. Okay. Et aussi pour parler d'une vente flash moins 50% chez le père.
Ah, vente flash, j'ai gagné 50 euros.
J'ai compté un flash. Shakespearienne de Gomorrah soulignée donc par Jonathan Cohen.
Après ton fromage.
Jonathan, ne bougez pas puisque vous voulez parler. On va finir avec la musique et vous avez choisi ceci comme chanson culte. 1, 2, 3, My baby don't mess around me. She loves me so, and this I know for sure. But does she really want to? I can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. Hey, yeah. The Who Outcast, c'est un morceau sorti en 2003 et je vous vois vous agiter une fête en ce moment. J'attends que vous dansez à peu près comme André 3000.
Oui, à peu près, mais comme André 2000, je dirais. Ouais. Du coup, je suis la version un peu en dessous. C'est un tube, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi l'incarnation du tube. Mm-hmm. Il est intemporel, on l'écoutera dans 90 ans et les gens feront « Hey, yeah !» et ils taperont des mains dans les bons rythmes. Ils font ça, je les vois déjà, aux Hespérides, ils sont déjà « Bah alors !» Et c'est incroyable, c'est un tube qui me fera toujours bouger.
Vous dansez beaucoup, d'une manière générale, dans la vie
J'aime bien danser, je danse pas assez, je trouve, à mon goût. Je danse pas assez. Je sors beaucoup moins qu'avant, mais du coup, ça me fait bouger la guibole, comme on dit.
C'est l'âge qui vient. Gérard, signalons quand même que vous aviez choisi, vous, A Day in the Life des Beatles, le final de Sgt. Pepper. La dernière fois, c'était Aznavour, donc ça bouge.
Là aussi, ça. Je remercie. Fais un petit lifting.
Non,
un petit lifting cérébral.
Beau goût, il entend.
J'entends
de bouger, il y a une évolution.
J'entends. Tu sais même pas de quoi on parle. Quoi. Tu ris, tu sais même pas.
Et la culture, c'est quoi? C'est la pop culture.
Messieurs, je résume. L'homme des Opening Night, Gomorrah, Outcast, les Beatles. Donc, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. 1, 2, 3.
Pietro Savastano a vieilli.
They have to be loved.
Maintenant, je peux mourir.
The whole world, everybody wants to be loved.
Je me haïssais et je haïssais le monde parce que je n'avais pas réussi à affronter et à accepter les limitations de mon moi et celles de la vie.
You wanna be loved.
Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance.
La fusion parfaite de vous deux,
absolument. C'est exactement nous. J'ai eu les frissons, regardez les poils.
Voilà. J'ai vu qu'il manquait l'accord final.
Ah oui,
après
il manquait le boom
qui
durait exactement 43 secondes.
C'est vrai,
oui,
bravo.
J'ai mesuré tout ça.
Bravo. On parle de l'accord de piano final avec la résonance,
la résonance
à la fin de Sgt. Pepper. Bien, c'est Gérard Damon, Jonathan Cohen. On parle de pop, de culture et de pop culture dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après le dernier morceau des Raconteurs, Help Me Stranger.
Agitates my affection, and it wants to. essential that I feel you. It's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time.
Les Raconteurs dans Pop 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 sur France Inter avec ce morceau Help Me Stranger qu'on pourrait traduire par Aide-moi étranger. Oui. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard Darmon et de Jonathan Cohen pour parler de Family et de Business avec Family Business, la nouvelle série Netflix qui sort le 28 juin prochain. Alors dans Family Business, Jonathan Cohen, vous êtes Joseph et vous, Gérard, vous êtes Gérard.
Oui.
Déjà, dire que les auteurs se sont pas non plus foulés max pour trouver des non.
Oui, mais après, ce qui est pas mal, tu sais, c'est qu'on a eu peu de temps de préparation pour faire cette série. Et du coup, je pense que ça a aidé tout le monde de s'appeler par ses vrais prénoms pour créer
parce
du
vous,
lien.
Parce que vous appelez Jo dedans. Hein.
Oui, donc mais il voulait pas que je m'appelle. Exactement. La plupart du temps, on m'appelle Jo, rarement Joseph, de temps en temps mon père. Et du coup, ça a créé une proximité assez rapide, tu vois, pour pas partir.
Pas besoin de méthode un
exactement,
peu à l'américaine.
Exactement.
Family Business, c'est l'histoire d'une boucherie cachère familiale tenue par vous, Gérard, qui va voir son activité légèrement chamboulée quand le jeune Joseph va vouloir transformer cette boucherie en beucherie, en apprenant l'imminence de la légalisation du cannabis.
Mon père, il était très chaud.
Je crois qu'il a gardé ton idée parce que c'est vendu, c'est fini.
Ma sœur, elle a cru en moi direct.
Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con.
Et mamie, elle a suivi.
C'était quoi?
On pourra désigner des F, ça marche.
Père.
Ça va être cadré, légal, propre.
2,5 millions.
Ah ouais, quand même, ouais.
Gendarmerie nationale.
Et voilà, comme ça, main dans la main.
Une cata.
Dans la bonne humeur familiale, on s'est lancé dans un business.
Putain.
D'avenir.
Je te présente la pasta weed.
C'est bien ça.
En réalité, Family Business n'est pas une série sur les cartels, mais bien, comme son titre l'indique, une série sur la famille, celle qu'on subit, celle qu'on choisit. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour constituer la vôtre ?
Réponds.
Je vais répondre en musique.
C'est le daron qui demande.
Écoute, on a travaillé petit pas, parce que on se connaissait vraiment pas. On s'appréciait mutuellement, mais du coup, pour créer ce rapport père-fils, ça a été au fur et à mesure des scènes, au fur et à mesure du travail, du temps passé ensemble, où à un moment donné, on a eu vraiment une bascule, où on a senti vraiment une filiation, une complicité, et du coup, ça s'est ressenti, on avait du plaisir à être ensemble, et puis après, malgré nous aussi, on va pas se mentir, et puis, on a Igor Gottesman, pour vraiment citer que lui,
et le réalisateur.
Exactement, qui est un super metteur en scène aussi, un directeur d'acteur, voilà, qui nous a mis dans les bonnes conditions pour le faire, mais j'avoue, c'était un pari et on est trop content qu'on ressente cette famille, quoi.
Ouais. On la sent très très fort.
Eh ben, c'est super. Ouais.
Alors, deux rôles très éloignés de ce que vous êtes en réalité, parce que Joseph est mytho et Gérard est boucher. Ça vous a...
Non, il n'est pas mytho, Joseph. Il essaye de réussir dans la vie.
Et... Sûr, oui. Ça vous a demandé une préparation intense, sachant qu'on parle aussi beaucoup de cannabis.
Oui.
Justement, non, mais je pense que j'ai travaillé toute ma vie là-dessus. c'est la raison pour laquelle... Non. Dans une autre vie, j'ai eu un beau-père boucher, donc j'ai vu un peu comme les arcanes de tout ça, j'ai suivi un peu comment ça se passait, j'accompagnais à Rungis et tout ça. Mais ça n'a pas tellement d'importance qu'il soit boucher. Bon, on prend l'histoire au moment où la boucherie justement périclite et il sait pas trop quoi faire de lui. Il ne veut pas lâcher. Il est traditionnaliste, un petit commerce, un petit fonds de commerce. Puis voilà, ça va aller comme ça. Il a un fils.
C'est deux générations.
Ouais. Voilà. Total, qui passe son temps à trouver des trucs dont tout le monde se branle. Ils s'en fout de ses inventions, de la machine à courber les bananes, le fil à...
Une appli pour brouiller les...
Ouais, qui est pas mal au final. Moi, j'aimerais bien l'avoir. Mais ouais, du coup, moi, j'essayais de m'émanciper, en fait, toujours autour à la case départ. Et puis, voilà, quoi, on a cette fameuse information.
Voilà. Et alors, justement, pour me convaincre, il va faire appel, parce qu'on n'en a pas parlé, il va faire appel à mon idole.
On va y venir, Gérard. Est-ce que vous êtes extraordinaire.
Est-ce que de manière générale, tous les deux, vous êtes de grands consommateurs de séries françaises, j'entends, lesquelles ont vos faveurs, et est-ce que vous pouvez les faire circuler sous le manteau?
Alors, de grandes séries françaises,
non. De grandes séries françaises, je suis pas un gros consommateur de grandes séries françaises.
Il y a 10% qui est vraiment bien.
Le Bureau des légendes.
Dans lequel joue Liliane Rovère qui joue.
Exactement.
Quelques trucs d'engrenage aussi.
Oui, engrenage, super. Des séries Canal essentiellement.
Je vous rappelle que vous avez joué dans Mafiosa
saison 2.
Qui sont de bon ton du coup de la cité.
Exactement, Mafiosa.
Mafiosa.
Effectivement, saison 2.
Netflix mise à nouveau sur le Made in France après Planqueur ou Marseille. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y a des répliques aussi savoureuses que dans Marseille?
Je trouvais pas ça bizarre qu'on se touche les hommes en parlant de Picasso. Hein.
Mais je vais regarder Marseille immédiatement.
Attends, tu peux la remettre, s'il te plaît.
Qu'on se touche. Mon père, il était prêt.
Non, pas la nôtre.
C'est bizarre qu'on se touche les hommes en parlant de Picasso. Hein.
C'est dur à topper quand même.
C'est magnifique.
Non. Ah non, mais ça, c'est odiant, vraiment. Écoute, si tu le regardes.
Alors, dur à topper, ceci dit, Jonathan, votre personnage est servi en question réplique culte, notamment quand il parle de ses supposées conquêtes féminines.
Ah non.
Est-ce que c'est de la pure impro ou est-ce que ce sont les mots d'Igor Gottesman, le créateur de la série, si par exemple je vous parle d'une meuf avec un chien?
Oui, c'est un mélange des deux. On va dire qu'il y a une bonne base et puis après je me suis laissé glisser. Mais
bien glissé même.
Bien glissé. Et puis voilà, c'est aussi ça le cinoche. Mais oui, c'est un mélange des deux. De toute façon, on a un texte, on a une base qui est plutôt vraiment bien. Et du coup, après, c'est comment faire vivre tout ça, comment essayer de l'agrémenter et d'aller au max de ce qu'on peut donner avec les mots, quoi.
Moi, il y a des répliques que je me joue en boucle, hein, comme par exemple, je vais lui niquer sa mère à Enrico Macias, je vais prendre sa putain de mandoline de fils de pute, je vais lui jouer des accords dans son putain de pute.
Absolument, et ça, c'est Igor Gottesman, c'est pas moi. Oui, bien sûr.
Tu vois. Bon, puisque précisons qu'Enrico est également, donc au générique du casting de la série, un Enrico qui joue avec son image et son stéréotype et qui en joue avec beaucoup de générosité. C'est quel genre de partenaire de jeu, Enrico Macias?
Il est très attentif, il est très très concentré, il est pas dans son élément, il le sait, parce qu'il est très malin, très intelligent, très talentueux, il le sait, donc il est humble, et j'étais son point d'appui. Vraiment, à chaque fin de prise ou de il me regardait pour savoir si j'allais adouber ou faire une autre.
Et puis il est d'une générosité qui est, enfin c'est complètement fou, il s'est plié au jeu et puis il est d'une bienveillance. C'est un amour, sur pattes et enfin c'est un honneur de l'avoir eu sur le plateau avec nous quoi, vraiment.
Et sa mandoline donc.
Et sa mandoline, entre autres.
Il se joue souvent de la mandoline.
Et alors la mandoline qui veut en jouer dans mon cul, salaud.
La série
est extraordinaire, cette mandoline.
La série est à la fois très drôle, mais aussi très tendre par moments, assez moderne aussi sur ce qu'elle raconte, de la mixité, de l'héritage familial, voire de l'hérédité. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce que la série raconte et sur quel point ?
100%. 100% sur tous les points, parce que je trouve qu'elle est, elle met le doigt sur des vrais problèmes actuels.
Bien sûr.
Le poids des parents, de la culture, de la mixité, de la réussite, et je me reconnais dans chacune de ces facettes-là, et c'est pour ça qu'elle me touche à ce point-là, cette série, c'est qu'elle, et en plus, elle ne le surligne pas, tu vois, on n'est pas là à stabiloter les points, vous avez bien vu, elle, très naturellement, elle les aborde sans même les aborder, tu vois.
Et beaucoup de légèreté.
Ouais.
Et d'humour surtout.
Eh ben, c'est formidable.
Ouais. Ça s'appelle La Famille du Business. On va continuer cette conversation dans quelques instants, mes amis. C'est diffusé sur Netflix à partir du 28 juin. C'est une série de 6 fois 30 minutes.
Oui.
Un petit bijou. On en reparle dans quelques instants. Pour l'instant, on écoute, vous écoutez Pop Pop Pop. Gérard, Jonathan, est-ce que vous savez faire ça toujours?
Bien sûr, j'essaye.
Oh, ils se sont entraînés.
Ouais.
Moi, je
n'ai pas arrivé.
Je l'ai inventé. Là.
Bon, c'est pour lancer les pop.
Et il n'y a pas que les Obama qui aiment la France. Non, une autre célébrité anglaise exilée aux États-Unis est venue tourner une séquence de son émission.
Bonjour, bonjour, bonjour. La attention, attention, attention. Je m'appelle the Tony and Emmy Award-winning actor James Corden. Hein? Où se trouve la station de la métro à La Paz? Hein? Pouvez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Are you say?
We're British.
Are you, sorry, what?
We're British.
Oh, thank God.
James Corden, star du Late Late Show de CBS, venu jouer pour les besoins de son émission la comédie musicale Les Misérables. Mais sur un passage piéton, puisque sa troupe s'appelle Crosswalk Company. Ils sont donc venus interrompre le trafic près du rond-point de l'Étoile. Et je vous laisse découvrir des Parisiens évidemment très patients sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr.
Danny Torrance a bien grandi et pourtant sa vie semble tout aussi perturbée que quand il était petit. Danny Torrance, c'est le gamin de Shining. Et dans cette suite intitulée Dr. Sleep, il rencontre Abra, une adolescente aux dons extrasensoriels. Ses vieux démons ressurgissent, hashtag Redrum. Et ce Danny adulte a les traits de Ewan McGregor et même qu'il parle français, à moins qu'il ne soit doublé.
T'as des pouvoirs magiques, comme moi.
Écoute-moi. Le monde est féroce. Sinistre. Je n'ai rencontré que 2 ou 3 personnes comme nous. Elles sont mortes. Quand j'étais petit, je tombais sur ces trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est de la magie. J'appelle ça le Shining.
Dr. Sleep, la suite de Shining, toujours d'après...
C'est impossible d'aller plus loin. Dr. Sleep.
Toujours d'après Dr. Stephen King, sortira le 30 octobre sur les écrans.
De nouvelles entrées au musée Grévin et c'est une première puisque ce sont des androïdes qui vont avoir droit à leur statut de cire. Kara et Connor du jeu vidéo Detroit Become Human seront présents dans un décor de 75 mètres carrés représentant le magasin d'androïdes Cyberlife présent dans le jeu. Et cet espace sera visible à partir du 28 juin.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Dr. Sleep.
Dr. Sleep Kangourou. Il n'y a que 3 personnes comme nous. Et elles sont mortes. Mais...
Merci Charline. Gérard Darmon, Jonathan Cohen, vous avez votre statue au musée Grévin? Oh, je vous parle là. Bon, okay. Non, c'était drôle, musée Grévin. Ok, bon. Ok, ne bougez pas. Pop, 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 continue. Juste après, Angèle et son balance ton quoi.
Balance ton quoi.
Comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Balance ton quoi.
C'est pris de l'élan.
Oui, ce qu'on pourrait traduire par Throw Your What, hein. Cet extrait de son album Brawl, qui signifie bordel en fait. Nous sommes en train de parler de Family Business avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon. Family Business, ce sont 6 épisodes de 30 minutes dont nous n'avons vu que les 3 premiers. Ce sera diffusé sur Netflix à partir du 28. Un sans faute. En matière d'écriture, de tempo, de jeu, d'humour, de réal, en un mot comme en mille, une réussite complète, quoi.
Merci.
Juste, rassurez-nous, j'ai vu que les 3 premiers, ça va se casser la gueule à partir du 4e.
Vraiment du 4e.
Oui, là, ça s'effondre.
Et ça s'effondre littéralement au 6e, c'est une cata.
Est-ce que vous avez eu plus de plaisir à jouer ensemble des scènes de pure comédie ou d'engueulade? Parce que dans un domaine comme dans l'autre, vous êtes assez bien servi, je trouve.
Les deux, vraiment les deux. T'es celle du premier, là, où on se pourrit la gueule, j'ai trouvé. On a pris un pied fou à l'affaire et puis les rigolades.
Parce qu'il y a une vraie scène d'engueulade qui est assez
qui est dure,
difficile à regarder.
Ouais, mais écoute. Franchement, on a pris
beaucoup.
Non, au contraire, parce que c'est typiquement le genre de scène où on prend beaucoup de plaisir à interpréter parce que voilà quoi, il y a de l'émotion et puis on va être juste.
Mais ce qui est formidable aussi, ce qu'on a oublié de le dire, c'est que on a eu chacun des pères à peu près similaires.
Oui, c'est vrai.
Donc on a été élevés dans le même jus. Et on sait ce que c'est que l'autorité paternelle, sait ce que c'est qu'un fils avec son père à cette époque, on sait ce que c'est, regarde-moi dans les yeux, baisse les yeux quand je te parle. Ouais. On savait tout ça, donc on s'est pas dit tout ça, c'est allé très vite.
Oui, c'est vrai.
Et on s'est amusé de tout ça. Ouais. Et c'est pas...
T'as absolument raison de le dire, parce que ça nous a rapprochés vachement aussi.
Bah oui.
Vous n'avez pas de lien de famille tous les deux.
Non, mais je trouve qu'à l'écran, il
pourrait être mon fils.
Je pourrais être son fils.
Physiquement, il y a quelque chose.
Oui, réciproquement, mon père. Non, ça pourrait être mon fils aussi. Mm-hmm.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bon. Gérard, vous aviez, vous aviez déjà joué dans une série qui s'appelait H, donc après H, la Beu.
Oui, bon pour le bien pour le mot. Mmh. J'avais fait un petit parcours, une petite apparition dans H, oui, je me souviens. La Beu après, je ne sais plus, à quelle héroïne je vais être livré.
Ça me semble très logique. Quelque chose qui se déroule dans le temps, comme ça. Alors, Jonathan Cohen, dans Serge le Mytho, la série de Canal+, on découvrait que Steve Jobs vous avait dédié un iPhone, un iPhone Serge. Oui. Dans Family Business, vous vous entourez de Mark Zuckerberg, comme développeur. Qu'est-ce que vous avez avec la Silicon Valley? Vous cherchez à leur passer des messages, peut-être?
Oui, c'est un petit appel de phare, leur dire que je suis là, et qu'à tout moment, s'ils ont besoin d'un vrai cerveau, je peux collaborer.
S'il est disponible.
Exactement. Là, on est à 60% de disponible. j'ai vidé la corbeille.
Est-ce qu'on vous parle toujours de Serge le Mytho aussi souvent? Est-ce qu'il aura les honneurs d'un long métrage? Et est-ce qu'il y aura un rôle pour Gérard?
Alors, 3 questions.
Pour un cerveau affûté, ça devrait être facile.
On va voir ce que je vais répondre. La première, oui, on me parle toujours de Serge. Toujours, parce que... Bah écoute, il a marqué un peu les gens, ça c'est formidable. Le film, on bosse dessus.
Et on a l'impression que c'est un peu votre double aussi. Enfin, que vous avez un, comme ça un plaisir à.
Mais c'est merveilleux
à partir en vrille. Bah, parce que il est comme ça, Gérard, au quotidien sur un plateau.
Absolument.
Oui, c'est.
Vraiment,
c'est il y a un fond.
Plus que
quoi.
Ça, oui, non, il y a un vrai fond de folie qui est magnifique.
Mais toi aussi, ouais, hein, Gérard, en plateau, c'est.
On a besoin de ça pour se concentrer, moi. Ouais. Je déteste le silence. Fous-moi la paix, je me concentre.
Qu'on me laisse me concentrer.
ça me fait peur, ça me fout les jetons.
Ouais, nous, on est
espèce de nervosité de plateau m'exaspère. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens de cinéma qui font ça. J'aime pas les. J'aime bien l'harmonie.
Tu vas détester Josh Brolin. Attention, hein. Que comme ça.
Donc Serge Le Film, c'est oui.
Serge Le Film, c'est un grand oui. On bosse beaucoup dessus. Et Gérard, ce serait un honneur. Alors. J'aimerais qu'il soit dedans, mais parce que c'est le même ADN. Mmh.
C'est pas fait encore, hein, je vous le dis.
C'est pas fait, tiens, le contrat il est là. Bon,
ce qui est certain, c'est que cette série, mine de rien, Family Business, ça parle de tout ce qu'on a évoqué, des histoires de famille, de transmission, de tout ce qu'on veut, mais ça colle aussi parfaitement à l'ère du temps, la légalisation, en tous les cas,
incroyable.
Thérapeutique,
incroyable.
Qui était une arlésienne, il y a encore peu de temps, est à nouveau d'actu. Une proposition de loi vient d'être déposée à l'Assemblée. Est-ce que vous avez un avis, vous, en tant que citoyen?
L'attaché de presse fait bien son taf, hein, parce que franchement, j'ai rarement vu une campagne de
com'. Un incroyable, timing, ça fait la une de l'Obs. Allez,
Moi, j'ai un avis, oui. Mm-hmm.
Ah oui, moi, j'en ai un aussi, mais tout le monde s'en fout. Mais vas-y,
pas du tout.
Non, moi, je suis pour la légalisation. Je pense que ça soulagerait beaucoup de problèmes, beaucoup de gens, et je suis contre cette espèce d'hypocrisie. Bon, il y a eu cette réunion des 70 professeurs, là, qui disent maintenant, du bout des lèvres, qu'éventuellement, ce serait peut-être pas mal pour 2020, pour quelques cas comme ça. Je trouve ça très hypocrite. Dans tous les pays où ça a été légalisé, en tout cas en Europe, en Hollande, les Pays-Bas, tout ça, en Espagne, il n'y a pas eu plus que ça de cas. À part en Espagne, dans la première année, où il y a eu un conducteur de métro qui s'est pas arrêté, mais enfin, c'est tout. On peut pas sur ce genre de truc, un incident. Non, ce serait bien. C'est beaucoup d'argent pour l'État.
C'est beaucoup d'argent pour l'État, ça permet de contrôler le trafic et de la qualité aussi, peut-être.
Il y aurait, exactement. Il y aurait plus de.
Voilà,
je
partage l'avis. Je pense qu'il va falloir le cadrer. Et puis, on a passé toutes ces années sans le cannabis, ben tentons avec et voyons ce qui se passe. Mm-hmm. Tu vois, plutôt que de dire ça va, Nani. Moi, je suis partisan de tenter l'aventure et je pense que ça va être un succès, moi.
Je pense.
Il en parle comme si c'était Koh-Lanta. Ouais, je suis content de tenter l'aventure.
C'est vrai qu'avec Sarah, on s'entend pas. Mais bon, parce qu'elle a mangé tout mon manioc, cette connasse.
Non, le seul petit le bémol quand même, c'est la tranche 12 ans, 12,
oui,
12,
oui.
12, 20 ans.
Pour les enfants, voilà,
c'est le problème. Là,
mais ils ne nous écoutent pas.
Bah oui, non, mais c'est pas
possible. Et comment ils nous écoutent, on peut leur dire que ça cause des dommages.
Voilà,
ça fait des cerveaux assez
compliqués. Il faut jamais le faire par besoin.
D'où le besoin de légiférer, non,
je pense. Exactement.
Ok, d'accord. Gérard Darmon,
la prison à vie pour
Jonathan Cohen. Mais c'est déjà l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vidéo de l'émission, mais il faut que j'y aille. Attendez, ne bougez pas.
Antoine.
Yabba dabba.
Snoop
Do.
Oh, bah vous avez l'air bien détendu, vous. Ah, mais c'est vrai qu'on est vendredi, je viens pas chercher un vinyle, je vais récupérer le magnéto du grand n'importe quoi. Vous l'avez à la main, là, ça vous a plu?
I liked it.
Oh, et vous êtes prêt à me le passer?
I'm fully loaded and ready to go.
Ah, ok. On est jeudi, en plus. Bon, allez, balance.
Tournez à droite. Là, tout de suite.
Oh putain, merde!
Poisson d'avril.
N'importe quoi.
33 septembre 1987, Las Vegas. En pleine répétition de son spectacle de magie, Gérard Copperfield transforma accidentellement son assistante Samantha en Mérou. Après des années de chirurgie, Samantha reprendra enfin forme humaine. Mais hélas, aujourd'hui encore, elle a beau frotter,
elles sont toujours le poisson.
Je m'appelle Emily Joy. Je m'appelle Emily Joy. Et ben les enfants, ben revenez.
Sorry, JC dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau du Villejuif Underground.
Allez, l'harmonica, allez.
Qu'on aime bien ici.
Tu veux que je fasse l'harmonica ?
Vas-y. Ah, un petit coup d'harmonica pour finir avec Jonathan Cohen.
Ah, oh merde. Vas-y.
Il est pas réglé.
Attends, je vais le faire, ça.
Voilà, sur cette terre de western, je remercie Gérard Darmon et Jonathan Cohen. Family Business, c'est à partir du 28 juin sur Netflix. Et c'est juste le truc à ne pas rater. Voilà, je peux pas le dire mieux. Merci messieurs d'être venus dans ce studio.
Merci à vous deux.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Tristan Gratalon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire Sophie Collet, Simon Restat, à nos attachés de presse, de production, pardon, à la programmation musicale. Djoubaka et Kélian Youssefi, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Adèle Haenel. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos boucherie sur YouTube, abonnez-vous. Oula, ça peut faire mal celui-là. À notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.